Est-ce qu'il y a parfois des problèmes dans votre église? Est-ce que vous connaissez une église qui n'a pas de problème? Et quel est le premier problème qu'a connu l'église primitive? On n'est pas à l'école du Nord, je l'ai presque. Quel est le premier problème qu'a eu l'église primitive? C'est vrai, on pourrait dire que ça a été la répression, la persécution. Je suis d'accord. Alors je vais changer ma question, quel est le deuxième problème? Il y a quelqu'un qui va coincer. Le deuxième problème, c'est un problème de croissance. L'église primitive a eu un problème de croissance. C'est un bon problème. Vaut-il mieux avoir un problème de croissance ou un problème de cimetière? Actes chapitre 6, verset 1er. On peut prendre la Bible, Actes, et lire un livre des Actes des Apôtres. Alors quand quelqu'un a parlé tout à l'heure de la discorde, c'était vrai et faux en même temps, parce que c'est vrai que ce problème de croissance a failli causer des problèmes de discorde, par contre. Ça a failli, ça a commencé. Actes chapitre 6, verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, c'est-à-dire les juifs qui avaient vécu hors de la Palestine, qui étaient d'origine grecque, murmurèrent contre les hébreux, donc les juifs de Palestine, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche, ils les présentèrent aux apôtres qui, après leur prier, leur imposèrent les mains. » Voilà. Alors, il y a un problème, ce problème c'est un problème de croissance. Et Actes chapitre 4, verset 35, vous le prendrez, 34 dit que l'église primitive, il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient les champs ou les maisons à les vendre apportaient le prix à ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait une distribution à chacun, selon les besoins. Il y avait un programme d'assistance sociale dans la première église. Vous savez que la sécurité sociale n'existait pas. Et les veuves, c'était une classe de personnes particulièrement vulnérables et faibles. Et une veuve, en général, était sans ressources et elle était très exposée. S'il n'y avait pas quelqu'un de la famille qui l'aidait, c'était vraiment la misère la plus noire. Et la première église de Pentecôte a eu comme souci, dès tout à fait à son début, de créer un programme social pour qu'on ne puisse pas dire qu'il y avait des chrétiens qui mouraient de faim pendant que d'autres étaient dans l'abondance. Et vous voyez que c'était une très bonne idée. Je pense que c'était une très bonne idée, mais vous voyez que cette très bonne idée a commencé de suite, rapidement, à causer des problèmes. Puisqu'il y a eu un problème, on pourrait dire, à notre époque, on dirait que c'est un problème ethnique, presque. Parce qu'il y avait les juifs d'origine palestinienne qui ont dit, les juifs d'origine grecque, hors de la Palestine, ça se passe à Jérusalem, ils ont dit, mais nous, on est lésés, nos veuves sont lésées, il y a de l'injustice. Les veuves d'origine palestinienne, on peut dire, sont avantagés dans la distribution par rapport aux autres veuves. C'est comme si on disait à notre époque, les noirs sont lésés par rapport aux blancs, par exemple. Par exemple. C'était un problème du même genre. C'était quand même un problème qui a failli tourner vinaigre. Parce que quand c'est marqué murmurer, c'est un mot rapide, mais murmurer, ça aurait pu vite se terminer en division dans l'église. Et quand il y a un problème comme ça, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme solution? Comment faut-il réagir? Alors je vous dis, il y en a qui ont la solution rapide, je sais qu'elle existe, même de nos jours, ils auraient dit, on arrête le programme social. C'est pas une bonne idée d'avoir distribué les biens, parce que vous voyez, ça fait la division dans l'église, il y a plein de problèmes. Alors il faut arrêter le programme social. Restons dans la Pentecôte, la pure Pentecôte, et ne faisons pas de social. Ils auraient pu dire ça. Il y en a, et les apôtres auraient pu dire, écoutez, puisque c'est ça, puisque vous n'êtes pas capable de gérer ça, on va s'en occuper nous-mêmes. Nous, les apôtres, on va gérer la distribution. Ça aurait donné un résultat assez lamentable. Ça nous aurait certainement donné des apôtres surmenés, un peu dépressifs sur les bords, et certainement des problèmes dans l'avenir. Voilà, j'ai une autre idée. Ils auraient pu dire, eh bien, écoutez, c'est simple, hein, puisqu'on est lésés comme ça, on va créer une église avec les juifs d'origine palestinienne et une église avec les juifs d'origine grecque et helléniste. C'est original ce que je dis là. Certains ont dit, eh bien, on va créer les églises noires et les églises blanches. Eh bien, toutes ces solutions-là, aucune n'a été retenue par les apôtres avec la sagesse de Dieu qu'ils avaient. Parce que Dieu avait une autre solution. Et vous savez, quand on a un problème, l'église ou personnel d'ailleurs, à toute solution, Dieu a prévu, à tout problème, Dieu a prévu une solution. Et quelle était, et cette solution, il faut la découvrir. Et quelle était la solution? La solution de Dieu, c'était des hommes. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes que Dieu a préparés d'avance. Hein, vous avez lu la suite, vous connaissez la suite. Et j'aimerais vous dire premièrement que ces hommes qui ont été nommés diacres, donc c'est les premiers diacres de l'église primitive, Étienne, hein, Philippe, etc. Donc d'ailleurs, si vous regardez bien l'origine de leur nom, ce sont tous des juifs d'origine grecque. Comme ça, il n'y a pas eu d'histoire. Ces hommes, premièrement, ce sont des hommes que Dieu a préparés d'avance. Ces gens-là, ils étaient prêts pour ce travail. Frères et sœurs, laissez-vous préparer par Dieu, laissons-nous préparer par Dieu. Laissons-nous préparer dans le secret, parce que Dieu a besoin d'hommes et de femmes, bien sûr. Parce que là, c'était des hommes, ça aurait pu être des femmes. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui préparent en secret pour le problème qui arrivera, et au moment voulu, il sortira la flèche de son carquois au moment où il faudra. Et c'est très important de nous laisser préparer en secret. Lorsque tu es préparé en secret par Dieu, tu ne perds pas ton temps. Même si ça ne se voit pas, même si ce n'est pas spectaculaire, même si c'est dans le secret, même si ça dure des années. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. J'aimerais vous dire aussi, frères et sœurs, que ce sont des hommes qui n'ont pas cherché une fonction. Ils n'ont pas cherché à être diacre. Ce sont des hommes qui avaient quelque chose dans leur cœur et la fonction les a rattrapés. C'est très important ce que je vais vous dire là. Dieu a toujours quelque chose à faire avec quelqu'un qui est, EST. L'important c'est d'être. Ils n'ont pas cherché la fonction, mais ils étaient. Et parce que nous sommes ce que nous sommes devant Dieu, avec ce que Dieu a fait dans notre cœur, il y aura toujours du travail pour celui qui est devant Dieu. Ce qui fait que ça évite beaucoup de problèmes et de frustrations, parce que lorsque la fonction part, nous sommes toujours nous. Et quand nous sommes toujours nous, Dieu a toujours quelque chose à faire avec nous. Alors, cherchons à être. Et Dieu s'occupera de nous faire faire. Deuxièmement, j'aimerais parler des critères. Des critères. Le choix. Dans l'Église, ce sont les critères spirituels qui sont prioritaires. C'est un problème matériel, mais il y a un critère spirituel. Et les apôtres ont dit, verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage. » Il fallait l'approbation de l'Église. Vous savez, l'Église, elle n'est pas si bête que ça. Et le peuple, excusez-moi de prendre ce terme entre guillemets, le peuple n'est pas bête. Et l'Église analyse très bien les choses. Et Dieu a confiance dans l'Église. Donc l'Église a choisi. Il fallait que ces gens aient un bon témoignage. Ils aient un bon témoignage dans l'Église, ils aient un bon témoignage à l'extérieur de l'Église. Ils disent, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et là on arrive au cœur de mon message, parce que j'ai oublié de vous en dire le titre. Alors je vais vous lire le titre. Rempli du Saint-Esprit au commencement, ensuite et à la fin. C'est un bon programme, ça. Moi, c'est un programme qui me plaît, pour moi, personnellement. Rempli du Saint-Esprit au commencement, ensuite et à la fin. Choisissez cet homme rempli, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Vous ne trouvez pas que les normes sont très élevées? C'est pour gérer un programme social. C'est pour s'occuper de la distribution des biens matériels, de l'aide matérielle, alimentaire aux veuves. Alors je ne sais pas comment ça se passait exactement, s'il fallait qu'il aide matériellement à distribuer les biens aux veuves, ou alors est-ce qu'il fallait qu'il gère tout le programme et qu'il gère la trésorerie de cette aide sociale, servir aux tables. Bon, on peut, il y a plusieurs façons de lire ce texte, mais bon, en tout cas c'était un service matériel, et qu'il soit, les normes sont très élevées. Je ne sais pas si vous imaginez, aujourd'hui on dirait, mais pour être pasteur, il faut être plein d'esprit sain et de sagesse. Mais il y en a même pour qui c'est même pas encore évident de nos jours. Parfois, il y en a même qui vont vous dire, dans certains milieux ou autres, ils vont vous dire, mais non, être pasteur, il faut avoir une grosse tête, il faut avoir quel diplôme académique, excusez-moi. Bon, déjà, quand on dit, il faut qu'un pasteur soit rempli du Saint-Esprit de sagesse, c'est bien, mais imaginez à l'époque, le discriminatif, c'est que pour que ces gens gèrent un programme matériel, il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Les normes sont élevées et doivent le rester. J'aimerais vous dire aussi, frères et sœurs, que les motivations sont élevées. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y avait rien à gagner. C'était des bénévoles, et tout ce qu'ils avaient à... Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il ne faut pas, que, par exemple, payer un pasteur. Hein, c'est pas ça, on ne peut pas dire ce que je veux dire, hein, parce que la Bible dit qu'on peut payer, qu'il faut payer un pasteur. Mais leur motivation était pure. Ils n'avaient rien à gagner. Vous savez ce qu'ils avaient à gagner? Au mieux, une lapidation. Le martyr. Ça fait un tri naturel, ne trouvez-vous pas, frères et sœurs, pour les postes? Qui est candidat? Qui veut un poste en vue? Tu seras le premier à être tué. Ça t'intéresse? Moi, je trouve que ça fait un tri merveilleux dans les motivations. Les motivations sont élevées. Qu'ils soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Bien sûr, rempli d'Esprit Saint, rempli, pas simplement baptisé du Saint-Esprit, rempli à aujourd'hui, rempli maintenant, et de sagesse. Pourquoi et de sagesse? Parce que il sait très bien qu'il y a parfois des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais il manque un peu de sagesse, un peu palabraque, comme on dit dans le Sud. Puis parfois, il y a des gens qui sont remplis de sagesse, ils sont tellement sages qu'ils sont secs comme des triques. Et la Bible nous demande de l'équilibre, elle nous demande la sagesse avec la puissance du Saint-Esprit. Et je pense que si on n'est pas assez sage, c'est parce qu'on n'est pas assez rempli du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Donc logiquement, si on n'est pas sage, c'est qu'on n'est pas encore assez rempli du Saint-Esprit. C'est ma déduction. Donc ils ont choisi ces gens, ces diacres, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et le résultat est là, parce que le verset 7 nous dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Le résultat est là, la croissance est là, les apôtres ne sont plus perturbés par ce problème, et la paix est revenue. Quelle victoire! J'aimerais vous dire aussi que, troisièmement, que ce passage attire d'autant particulièrement notre attention sur Étienne, vous le savez, Étienne. Et dès le début, le verset 7 nous dit, ils ont élu Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Homme plein de foi et d'Esprit Saint. Donc il fallait choisir des hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et ils élurent Étienne, homme de plein de foi et d'Esprit Saint. Non simplement il était plein d'Esprit Saint, plein de sagesse, mais en plus il avait quelque chose de plus que les autres, qui distinguait un peu les autres, il avait une foi particulière. Il se distinguait déjà. Il était plein de foi. Il prend Dieu au mot. Il ose aller là où les autres ne vont pas. Il ose faire ce que les autres ne vont pas faire, et il prend Dieu au mot, et il ose obtenir des miracles là où les autres ne voient rien. Et c'est pour cela que la suite va nous le faire distinguer d'une façon particulière, puisque après, eh bien, il commence diacre, et on le voit tout d'un coup dans les rues, en train d'évangéliser. Il y avait une foi particulière chez cet homme. Alors on se demande comment ça s'est passé. Je me suis fait un peu mon film, je me suis dit, mais peut-être que, voilà, au début, il a commencé à distribuer les vivres aux veuves, à gérer ça, et puis, entre deux, il avait un petit moment, il a dit, tiens, je vais un peu évangéliser dans la rue, faire un petit travail pour le Seigneur. Il a commencé à témoigner, puis ça a commencé à marcher, et puis, ça y a pris de plus en plus de temps, à travailler pour le Seigneur dans la rue. Et puis finalement, un jour, il était allé voir les apôtres et leur a dit, écoutez, frère, franchement, je peux plus gérer, j'en peux plus, il faut que je dorme la nuit. Donc, je peux pas faire à la fois la rue et les veuves, donc trouver quelqu'un d'autre pour les veuves. Et il a fait un adieu il a fait un pot d'adieu à ses veuves. Ils ont mangé ensemble, ils ont fait un grand repas d'adieu et il leur a dit, ben, je regrette, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous, mais maintenant j'ai autre chose à faire et il faut que je travaille dans la rue. C'est peut-être ça qui s'est passé. Alors cet homme qui a accepté, qui était plein de foi, qui a commencé par quelque chose de petit, il était là, il était disponible, et il a évolué naturellement de diacre à évangéliste. Ne pas chercher ce qui est élevé, mais être disponible, frères et sœurs, là où on a besoin de nous. Ça c'est une solution, c'est une première chose, bien sûr, tout le monde le dit. Mais j'ai retenu aussi quelque part que, bien sûr, il faut être disponible pour Dieu là où il nous demande d'être, même si ce n'est pas spectaculaire, mais il faut aussi savoir évoluer. C'est important ça. Savoir évoluer. Voilà un homme qui a commencé diacre et puis que Dieu l'a emmené plus loin. Et c'est important pour nous que notre position ne soit pas statique, que nous ne soyons pas cramponnés à quelque chose. C'est un peu comme au travail, vous savez. Il faut savoir changer parfois de poste. Et nous, chrétiens, dans l'Église, dans notre vie personnelle, on doit savoir évoluer. Et notre position ne doit pas être statique. Dieu peut vouloir quelque chose de nous à un moment T, à un instant T, à un endroit. Et puis peut-être que, à un moment, c'est plus la même chose que Dieu veut de moi. Et il faut, c'est très important pour nous que nous soyons ouverts à ce que Dieu veut pour nous à l'instant, maintenant. Et moi, je sais que pour ma vie personnelle, je trouve que c'est très important parce que je ne veux pas être un obstacle au plan de Dieu en disant, Seigneur, je veux rester absolument là alors que peut-être Dieu a autre chose pour moi. Parce que ce qui est quand même merveilleux, c'est que Dieu ne met jamais personne au rebut. Et que Dieu a toujours quelque chose pour nous à un moment, et a toujours un plan d'amour pour nous, et que si on rentre dans son plan, dans son courant d'amour, dans son courant de vie, il y a toujours quelque chose de une évolution, un progrès à faire, et on va toujours de l'avant avec lui. C'est important ça. On ne peut pas se cramponner à quelque chose, à un endroit précis, parce qu'à un moment on va se dessécher. Je pense que moi, si je suis à un endroit où je fais quelque chose pour Dieu et puis que je me dessèche, il vaut mieux que je tourne la page et que je change. Le verset 8 nous dit « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Alors c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas ce grand ministère d'évangéliste de puissance. Mais néanmoins, frères et sœurs, nous sommes appelés à chercher de la part de Dieu cette autorité spirituelle et ces dons de l'Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, mais la Bible dit qu'il était plein de grâce et de puissance. Et même s'ils ne sont pas appelés à être des Étiennes, des évangélistes, pourquoi pas, peut-être que quelqu'un est appelé à devenir un Étienne. Néanmoins, nous avons besoin de chercher cette autorité spirituelle qui fait que là où nous allons, nous avons une autorité qui puisse vraiment apporter la présence de Dieu et chasser le mal autour de nous et apporter la délivrance d'une façon ou d'une autre. C'est vrai ? Est-ce que n'importe quel chrétien peut faire ça ? Oui. Bon, je me souviens de ma mère qui avait même pas le certificat d'études. Un jour, il y a à Nice, on habitait à Nice, on était en appartement. Un jour, ma voisine au-dessus, elle dit, Madame Ambitri, je connais très amie dans l'immeuble, c'était un petit immeuble, Madame Ambitri, mon mari meurt, et son mari faisait une crise, mais vraiment terrible, il est en train de mourir sur place. Ma mère, c'est pas une grande théologienne, elle n'avait pas le temps d'appeler un pasteur pour prier pour lui, elle est montée, ric-rac, elle a imposé les mains, et puis paf, il était sorti d'affaire. Après, elle n'est pas sortie de la rue en disant, je suis une évangéliste. Mais à l'instant T, Dieu avait besoin d'elle, il s'est servi d'elle à ce moment-là, et de toute façon, elle n'avait pas le choix. Nous avons une autorité, frères et sœurs. Nous avons une autorité. Vous allez peut-être vous retrouver demain, après-demain, dans le travail, devant un cas difficile, et puis Dieu va se saisir de vous pour un cas précis, et puis il va faire quelque chose avec vous. Alors Dieu, Étienne, était plein de grâce et de puissance. Il avait cette grâce de Dieu en même temps. Ce n'était pas une puissance austère, plat, plat, plat. Hein, ce n'était pas la puissance, du prophète Élie dans l'Ancien Testament. C'est pas la puissance qui envoie le feu pour consumer les gens, mais c'est la puissance qui apporte la guérison et la grâce. Amen. C'est la puissance qui apporte la grâce et la vie. Méfiez-vous toujours des gens qui vous disent la puissance et qui vous apporte la mort. Tiens, c'est une parenthèse, j'ai pas prévu de le dire, mais je vous le dis. Méfiez-vous des gens qui viennent avec la puissance et qui vous apportent le jugement. Même quand Dieu convainc de péché, il apporte la grâce avec lui pour qu'on soit rétabli. Si vous voyez quelqu'un qui agit la puissance, c'est même un grand homme de Dieu très connu, et puis il vous apporte le feu du ciel et vous êtes tous consumés sur place. Jésus n'était pas comme ça en tout cas. Pourtant, c'est parce qu'il avait la puissance. Étienne était plein de grâce et de puissance, il était plein de sagesse, il était plein de foi et plein d'Esprit Saint, et il était plein, imbibé, imprégné de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà lu le chapitre 7 des Actes des Apôtres? Alors, ne le lisez pas ce matin, c'est un peu long. Il y en a qui vont trouver ça très rébarbatif. Mais imaginez que ce gars-là, cet homme, ce diacre, cet évangéliste, il parle devant tous ces hommes religieux de mémoire. Et il leur fait tout le panorama de l'Ancien Testament. Jusqu'à David, hein. David Salomon. Il démarre d'Abraham et il finit à David Salomon quand même. C'est pas mal. C'est assez long. De mémoire. On a besoin, frères et sœurs, d'être imprégnés de la Bible. On a besoin de connaître la Bible. Nous avons besoin de méditer la Bible. Et c'est parce qu'il connaissait sa Bible et qu'il avait le Saint-Esprit avec lui que la Bible dit que quand il parlait dans la rue, les gens qui parlaient avec lui ne pouvaient pas résister à la sagesse par laquelle il leur parlait. Ils ne pouvaient pas résister à cette sagesse. Nous avons besoin de lire cette Bible et de la relire et de la redécouvrir. Cette parole de Dieu, elle n'est jamais usée. Et quand on pense que notre pays a été marqué par de nombreux bûchers à l'époque du XVIe siècle, à l'époque de la persécution des Huguenots, savez-vous qu'il y a des gens, vous avez de nombreux chrétiens qui venaient de Suisse, par exemple, ils avaient leur ballon de Bible sur le dos. Et parce qu'on les prenait, ils savaient qu'ils risquaient la mort, et quand on les prenait avec des Bibles sur le dos, parce qu'ils voulaient absolument distribuer la Bible en France, en général, leur point d'arrivée, c'était un bûcher devant, par exemple, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, ils estimaient que c'était vraiment quelque chose de très précieux pour pouvoir, quand même, risquer leur vie. Et quand on lit ces histoires, c'est une histoire tout à fait authentique, que je vous assure que c'est très documenté ce que je vous dis, et même certains, ils avaient échappé à la mort, ils étaient repartis à l'étranger, et ils revenaient volontairement en risquant leur vie, ils savaient qu'ils risquaient leur peau, tout ça parce qu'il fallait absolument distribuer la Bible dans les foyers. Je ne sais pas comment vous avez des versions à la maison, mais moi j'ai beaucoup de versions. J'ai des dictionnaires bibliques, j'ai des concordances, j'ai plein de versions. On rendra compte devant Dieu de ce qu'on a eu. Donc, frères et sœurs, profitons-en et lisons la Bible. Peut-être un jour on n'aura plus la liberté de la lire. Et de toute façon, même si on n'aura pas la liberté, ou même si on avait la liberté, de toute façon il y aura des moments dans la vie qu'on va traverser où on aura besoin d'avoir cette Bible dans le cœur, parce qu'elle aura besoin de sortir un moment et pour nous comme arme de Dieu pour nous donner la victoire. La Bible est un livre extraordinaire. Amen. C'est la parole de Dieu et il faut la lire. Il faut la lire. Absolument, systématiquement, méthodiquement, régulièrement, tous les jours. Alors il y en a qui vont dire, mais moi j'aime pas lire. Alors je reprends l'exemple de ma mère, ma pauvre mère qui est morte, ça n'est pas contre ta pauvre, elle est au ciel. Ma maman n'était pas du tout une intellectuelle, et elle ne lisait, elle lisait pratiquement rien. Mais je me rappelle cette vieille Bible, ces Bibles qu'elle avait, en gros caractère, parce qu'après elle ne voyait pas bien, elle prenait des notes, elle vivait avec la Bible. En gros, elle lisait deux choses, la Bible et le journal, ce matin. Voilà. Elle lisait les nouvelles du jour, tout ça, parce que bon, quand même, on peut lire autre chose, mais c'était pas une grande lectrice, c'était pas une grande intellectuelle, mais alors sa Bible, elle l'a lisée. Elle l'a lisée. Et il y avait toutes ses notes, ses écrits, moi j'ai des choses, on a retrouvé, après sa mort, tout ça. Il y avait des dates, là Dieu lui parlait, pour ses enfants, pour son mari. Maman était la première personne à se convertir dans la famille. Juste après elle qui s'est convertie, c'est moi. J'avais 16 ans. Mon frère qui avait 15 ans s'est converti en même temps qu'elle. Ma sœur s'est convertie après. Ses trois enfants sont convertis, sont toujours engagés avec le Seigneur. Et ont tous eu un service dans l'église d'une façon ou d'une autre. Sa vieille mère s'est fait baptiser à l'âge de 80 ans. Sa jeune sœur, qui était folle à l'aliée, psychiatrique, a été délivrée, convertie. Son mari, mon père, qui était opposé à l'évangile, s'est converti sur son lit de mort. Il y a un impact. Lorsqu'on s'attache à ce que le Seigneur, et elle marquait, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé pour mes enfants. Il m'a dit qu'il servirait Dieu. Il m'a dit ci, il m'a dit ça. Et marqué comme ça, le Seigneur m'a parlé pour la guérison de mon... Elle était très, très malade, hein. Elle était très malade. Dieu lui parlait. Et elle s'approchait à Dieu pour sa guérison. Je vais vous faire envie. C'est un livre merveilleux. N'hésitez pas à avoir une vieille Bible et vous écrivez dessus. Vous savez, ça c'est ma Bible officielle. Et puis il y a celle de la maison. Vous écrivez, vous soulignez, vous marquez, vous soulignez, vous mettez vos commentaires, vous dédatez. Dieu m'a parlé telle date, tel jour, ce verset. Et puis peut-être que Dieu va vous reparler par ce même verset 20 ans après, j'en sais rien. C'est ça qui nourrit notre foi et qui le rend fort. Un dernier point. Le visage d'Étienne. Je ne sais pas comment est mon visage aujourd'hui. Je suis pas. Mais je suis sûr qu'il viendra avoir un visage comme Étienne. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Je ne sais pas si c'est la tête qu'on a parfois le lundi matin en allant au travail. Leur parut comme celui d'un ange. Qu'est-ce que ça fait lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? Alors bien sûr, il y a une grâce de Dieu exceptionnelle, parce que l'histoire de l'Église nous montre que quand quelqu'un est au bord du martyr, Dieu accorde une grâce extraordinaire, particulière au moment où il va mourir pour servir de témoignage. C'est connu, c'est archi connu. Et les bûchers français du XVIe siècle et des autres siècles le montrent, que bien souvent les martyrs huguenots étaient là et chantaient, et avaient une grâce extraordinaire en train de brûler. Et beaucoup de gens sont convertis comme ça d'ailleurs, en les voyant martyrisés. Néanmoins, c'est une leçon pour nous. Notre visage est notre meilleur prospectus. Alors je ne parle pas de le fait de caractère, d'être expansif, pas expansif, souriant, pas souriant, mais je pense que quelque part, d'une façon ou d'une autre, les gens, lorsqu'ils nous regardent vivre et voient notre attitude, doivent voir en nous quelque part qu'il y a du Seigneur en nous. Alors, il y en a parfois plus ou moins bien du Seigneur, parfois c'est un petit peu obscurci par nos imperfections bien nombreuses, bien sûr, bien malheureusement, mais que le Seigneur nous aide ce matin à sortir de cette réunion meilleur que nous sommes rentrés. Amen. Je ne dis pas sortir comme Moïse lorsqu'il est descendu de sa montagne avec le visage rayonnant, mais pourquoi pas? En attendant que lorsqu'on a passé un moment dans la présence de Dieu, les gens ne puissent pas voir quelqu'un qui est illuminé ou fanatique avec une auréole, mais voir quelqu'un qui a quelque chose de plus qu'eux et qui leur fait envie. Je pense que c'est quand même le meilleur prospectus, frères et sœurs. C'est quand même le meilleur prospectus. Et pour terminer, le verset 55 du chapitre 7 nous dit, donc Étienne va mourir. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Au début, il était rempli du Saint-Esprit. Pendant, il était rempli du Saint-Esprit. Avant de mourir, il est rempli du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous l'avez cru? C'est ce que l'apôtre Paul a demandé aux disciples d'Éphèse. Et si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, êtes-vous aujourd'hui remplis du Saint-Esprit? Et demain serons-nous remplis du Saint-Esprit? Que Dieu nous aide chacun pour notre part à être remplis du Saint-Esprit. Que c'est triste, quelqu'un qui a bien commencé et qui finit sec. Je ne dis pas qu'il finit mal, je ne dis pas qu'il y a une chute. Je ne dis pas quelqu'un qui a commencé avec Dieu et puis qui est devenu rétrograde, je ne parle pas de ça. Mais c'est triste quelqu'un qui a commencé avec Dieu bien vivant, rempli du Saint-Esprit, qui finit avec de l'amertume, avec de la sécheresse, avec un cœur sec. Que Dieu nous aide à être... Ce n'est pas une question d'âge. On peut avoir 90 ans et être rempli du Saint-Esprit. On peut être invalide et être rempli du Saint-Esprit, bien sûr. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous aide à vraiment être rempli du Saint-Esprit, que Dieu fasse peut-être revenir quelqu'un au milieu de nous ce matin. Hein? Que Dieu fasse pousser dans le désert quelque chose, et peut-être quelqu'un qui a perdu quelque chose de Dieu. Vous savez, dans le livre de Job, il est écrit que est-ce que même un jonc, lorsqu'il est près du courant d'eau, est-ce qu'il ne reprend pas la vie? Il y a un verset comme ça qui parle dans le livre de Job. Est-ce que nous, parfois, est-ce que si on s'est desséché, est-ce que en s'approchant de la source d'eau vive, est-ce que le Seigneur ne va pas nous rendre à nouveau une nouvelle jeunesse? Est-ce que Dieu peut rendre une nouvelle jeunesse aux personnes âgées spirituellement? Amen. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que la grâce de Dieu est avec nous, au milieu de nous, et que nous sommes rassemblés pour être meilleurs, et qu'il n'y a aucune excuse pour finir sec, amer, sans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que, qu'on le veuille ou non, les premiers disciples ont eu beaucoup de difficultés. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils ne roulaient pas sur l'or. Ils avaient beaucoup d'opposition. Ils risquaient leur vie tous les jours. Ils étaient battus, persécutés, haïs quand même. Et là, on voit quand même cet homme qui a entouré de haine. Ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Moi, je ne sais pas, j'ai jamais vu personne qui a grincé des dents contre moi. Donc, pas très marrant quand même. C'est quand même pas la joie autour de lui, c'était pas l'amour. Et lui, au milieu de cette circonstance difficile, adverse, la Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Frère, mon frère, ma soeur, lorsque tu es au milieu d'un monde difficile, au milieu de difficultés terribles, au milieu d'un monde plein de haine et de souffrance et de choses qui peuvent t'attaquer d'une façon ou d'une autre, même de la maladie, la solution, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de regarder vers Jésus. Fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et c'est là la solution pour nous. Il a commencé sa vie près de Jésus, rempli du Saint-Esprit, il a marché dans l'humilité, il est resté disponible entre les mains de Dieu, il a laissé le Seigneur le faire évoluer, il a travaillé avec Dieu, et il finit en fixant les regards vers la gloire de Dieu, vers la gloire de Dieu, et il voit Jésus à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut ce matin, en terminant cette réunion, peut-être oublier, je ne dirais pas oublier, mais on va pas oublier les soucis de la vie, parce qu'on va les retrouver. Mais est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je veux regarder à toi maintenant, je veux redécouvrir à nouveau ta gloire. Je veux revoir à nouveau ta gloire, je veux te voir toi, je veux regarder vers le ciel et te voir Jésus debout. Il était debout pour l'accueillir, bien sûr, mais Jésus est là, il règne en gloire et il est bien plus grand que tous nos problèmes. Et je veux là, en te voyant dans ta gloire, te contempler, alors te laisser à nouveau me remplir du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit avant, au début, rempli du Saint-Esprit pendant, rempli du Saint-Esprit jusqu'à notre dernier souffle. C'est un programme que Dieu s'engage à tenir avec nous. On peut se lever et prier le Seigneur. Et celui peut-être qui est venu ce matin, qui dit « Ah mais moi c'est pas pour moi, je suis sec. » Il y a eu trop de problèmes. Alors on croit que ce matin le Seigneur va redonner la vie à quelqu'un.